Qu'est-ce que c'est qu'Arit? C'est de... C'est de soumettre par des procédés symboliques, c'est des codes. Et donc, c'est la même peinture pour tous les jeunes, par exemple. Donc, ça les inclut dans un groupe. Bon, le rite, c'est ça, c'est inclure et imprimer. Inclure dans un groupe et imprimer des normes. Et ensuite, on y va avec ça, quoi, dans la vie. Quoi.
On dirait une sorte de rituel. La cérémonie de la répartition va bientôt commencer.
L'anthropologue Maurice Godelier, que vous venez d'entendre dans un extrait du documentaire Rite de passage de Jean-Pierre Miroz, évoque ces cérémonies très précises organisées dans les sociétés traditionnelles depuis toujours. Si ces coutumes semblent aujourd'hui éloignées de nos sociétés, les passages, eux, restent bien réels pour chaque homme et femme, depuis le berceau jusqu'au tombeau. Heureux ou malheureux, facile ou difficile, tous symbolisent d'une manière ou d'une autre une transformation personnelle et à laquelle désormais on prête peu attention. Alors pour mieux comprendre ce qu'est un rituel, je vous propose dans cet épisode de rencontrer une personne qui conçoit, écrit et anime des cérémonies de passage pour des particuliers. Petite, elle raffolait déjà des rituels gourmands que confectionnait une amie de la famille.
À chaque fois qu'il y avait une bonne note, une bonne nouvelle, elle faisait un petit repas.
Mais c'est lorsqu'elle perd son père, il y a quelques années, qu'elle approche de près la fonction symbolique du rite.
C'était une cérémonie atypique à bien des égards. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire.
Aujourd'hui, Lara Molny est musicienne et célébrante des cycles de vie. Violoncelliste co-soliste de l'Orchestre Symphonique de Vendée, elle a également co-créé avec Philippe Bouec la Compagnie des Arts, un espace de création artistique à Nantes. Que trouve-t-on dans son atelier? À quoi ressemble concrètement un rituel de passage et comment se forme-t-on à ce métier non référencé qui, si l'on en croit le dossier de presse de l'École des Célébrants, est classé numéro 1 des reconversions professionnelles par le magazine américain CNN? Après le virage, une émission de Cécile Préfol, épisode 1, Les Honorés.
J'habite une maison en bois qui est donc très chaleureuse et agréable à habiter et agréable pour travailler. C'est un atelier de couture et de bricolage, donc il y a beaucoup d'objets liés à la couture et au bricolage. Et puis c'est aussi un endroit où je me réfugie quand il y a un peu trop de bruit ailleurs. Quand j'ai compilé sur mes recherches sur l'ordinateur, quand j'ai compilé pas mal de textes, que je viens me poser ici pour les lire, hein, pour prendre des notes, extraire un peu des idées pour les cérémonies.
Il y a des magazines de couture, ce qui est peut-être pas si éloigné de votre pratique, où finalement il faut tisser des liens, il faut prendre du fil et puis redonner c'est du vrai. Sens avec des petits bouts de choses.
C'est vrai.
Et puis, il y a des livres. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu ce qui vous inspire?
Alors, il y a un livre que j'utilise beaucoup, c'est le dictionnaire des symboles. Donc celui-ci, je trouve, quand justement en parlant des questionnaires, quand je trouve chez les mariés un intérêt pour... un concept ou alors un objet, voilà, je vais regarder là-dedans, je regarde un petit peu ce que je peux trouver. Là, je vois le ruban, par exemple, le symbolisme du ruban. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les cérémonies de mariage.
Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses sur l'amour, sur le couple. Est-ce que vous avez des choses qui ont trait peut-être à d'autres éléments des rites de passage?
Alors, il y a un petit livre de Hélène Valentin qui s'appelle « Perles de temps » et qui, lui, peut être utilisé un petit peu pour tout le monde. C'est basé sur le cycle des saisons. Ça parle un petit peu de la vie. C'est comme des petites photographies qu'elle aurait faites d'instants. Et je trouve aussi là-dedans des textes qui correspondent aux personnes que je rencontre. Voilà, j'en ai un autre. Alors, j'ai Le Prophète de Khalil Gibran. Donc là, il y a aussi énormément de choses. On ne peut pas utiliser tout dans l'intégralité. Il faut faire des choix, mais c'est des textes qui sont bien appréciés en général dans les cérémonies et qui couvrent un petit peu tous les aspects de la vie.
Je vois qu'il y a des parties sur les lois, sur l'élu. Comment est construit ce livre et de quelle manière il vient vous accompagner dans votre création de cérémonie?
Quand j'ai une idée qui vient, voilà, ça peut être par exemple sur... je cherche des petites choses. Voilà, la connaissance de soi, par exemple. Ou alors, bon, il y a des textes où je vais pas aller, dans lesquels je vais pas aller piocher. Hein. Crime et châtiment, je vais pas y aller.
Il y a des choses à faire.
Il y a des choses à faire, mais dans les cérémonies, ça se trouve pas toujours. Mais on ne sait jamais. C'est vraiment comme si j'allais à la pêche. J'en ai un autre qui s'appelle La cuisine des fêtes et qui est très intéressant. Parce que c'est un livre sur les pâtisseries françaises, mais relié aux fêtes qui sont elles-mêmes liées aux saisons ou aux grands moments du christianisme dans l'année. Et on se rend compte que souvent les gâteaux existaient avant les transformations liées à la religion. Et il est très intéressant celui-là aussi. Voilà, donc il est rangé avec mes bouquins de cuisine. En réalité, je ne l'utilise pas énormément pour les cérémonies, mais bon, il est là. Et peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de l'utiliser.
On mange d'ailleurs pendant les cérémonies?
Ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois de faire un apéritif en guise de rituel. Voilà. Et on peut manger, ça peut arriver, effectivement. Je me souviens d'une amie de mes parents, qui était un petit peu ma deuxième maman, qui avait toujours envie de célébrer. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une bonne note, une bonne nouvelle, elle faisait un petit repas, prenait l'apéritif, ou alors voilà, on passait un moment convivial. Les rituels les plus simples que j'ai vécus, c'est les anniversaires. Avec le gâteau fait par ma grand-mère. Donc c'est un peu une institution. Donc là, ça rejoint le rituel. C'est le gâteau de mémé. Très beau gâteau fait main, fait maison, avec des noisettes, avec du praliné. Enfin, c'était vraiment délicieux. Ou alors, parfois, c'était des pièces montées de choux avec du caramel. Chez nous, c'était beaucoup des rituels liés à la nourriture. Parce que c'est en Roumanie, un rituel pour les défunts, où les femmes préparent une espèce de gâteau qui est décoré, qui ressemble un petit peu à la tombe du défunt, et qui va être décoré comme la tombe du défunt, et partagé sur sa tombe. Et c'est un moment où on mange pour le défunt. Je ne sais plus ce qu'il y a, c'est un gâteau avec du miel, je crois, peut-être des amandes... Et ça prend un temps fou à préparer et il y a tout un rituel autour. Hein. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'était mes recherches pendant le confinement sur comment on vit les funérailles ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe quand les rites d'initiation disparaissent? Ça, c'est la question que je me pose.
Julien Clément, auteur d'un article « Sans rites, comment passer les âges ?» paru dans la revue Esprit d'avril 2018.
Il y en a dans notre société des rites d'initiation, un certain nombre de communautés les pratiquent, des rites d'initiation très clairs, très identifiés, notamment les religions. Vous en avez aussi d'autres plus diffus, ou plus inventés, plus d'une couleur, un peu, d'une tonalité un petit peu différente, notamment autour du mariage, ce qui précède les mariages, les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de jeune fille, etc., les baptêmes. Bon, il y a toute une série de choses comme ça qui s'opposent. Et à Samoa, vous aviez des rites d'initiation très clairs, notamment pour les hommes, pour le passage à l'âge adulte, avec un tatouage qui était pratiqué collectivement et qu'on organisait à l'écart du village pendant une semaine, enfin un peu plus longtemps, où les hommes se faisaient tatouer ensemble. Et ensuite, ils réintégraient le village. Selon une logique très claire des rites d'initiation, on se met à l'écart, on subit un certain nombre d'épreuves et on est réintégré. Et à ce moment-là, dans ce passage-là, on s'est transformé, on a changé de statut.
C'est des choses qui ont été effacées. La plupart des fêtes religieuses, elles sont calquées sur des dates d'anciennes fêtes païennes. Donc ça a existé, c'est une façon de vivre la société, vivre le temps de la vie qui les a effacées, mais ça a toujours été là en réalité. On vit tous des moments de transformation tout au long de notre vie, le premier étant la naissance, puis la vie et la mort. On a besoin de conscientiser ces moments-là. Donc la vocation, c'est de redonner de l'importance à des moments de nos vies qui passent parfois un peu trop vite et qui ressortent parfois quelques années après. On a un petit retour. Des fois, on dit on décompense là, etc. Mais non, en fait, c'est qu'on n'a juste pas bien vécu ce moment. À titre personnel, par exemple, je pourrais faire des cérémonies pour moi, enfin j'ai dans l'idée de le faire, sur des moments de ma vie que j'ai pas vécu assez profondément et qui sont venus me hanter après. Par exemple, le passage de la petite fille à la jeune fille menstruée, ça c'est des passages qui parfois sont très bien vécus, très bien gérés. Et puis d'autres fois, on croit que c'est bien passé, mais en fait non, pas du tout. Et ça rejaillit, ça peut rejaillir 40 ans après. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et il est encore temps de le faire, en fait. Il n'est jamais trop tard.
Est-ce que vous pourriez me donner la définition d'une célébrante de vie ?
Alors, je dirais que c'est une personne qui accompagne d'autres personnes dans la création d'une cérémonie de passage pour un événement important de leur vie. On parle de nos honorés. Donc on honore des personnes qui se marient, on honore un petit enfant qui vient de naître, on honore une personne qui décède, on honore une maison. C'est une cérémonie pour honorer ce que vit la personne à ce moment-là.
À quoi vous pensez qu'il pourrait faire l'objet d'un moment où on se pose pour réfléchir à ce passage?
Je peux citer par exemple les 21 ans de mon fils. Je suis partie sur l'idée des cycles de 7 ans. Donc 21 ans, c'est la fin d'un troisième cycle et l'entrée dans un autre qui va aller jusqu'à ses 28 ans. C'était important pour lui de parcourir un labyrinthe.
Alors ce labyrinthe, concrètement... Enfin, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu juste tous les deux? À travers cette question, ce que j'essaye de savoir, c'est si ça peut rester assez intime, en fait, aussi, cette question du rituel, ou si, comme on peut l'imaginer un peu, pour l'avoir vu dans d'autres sociétés, c'est forcément toute la tribu qui est là, tout le village.
Alors, c'est vrai que dans d'autres sociétés, il peut y avoir beaucoup de monde. Mais il y a aussi des rituels que les jeunes garçons vont subir, entre guillemets, ou vivre tout seuls dans la forêt. Et puis, quand ils reviennent, c'est partagé. Alors, il y a des rituels. Le labyrinthe en particulier, ça peut se faire tout seul. Moi, le premier rituel que j'ai fait pour moi, c'est un labyrinthe sur une plage. Donc, j'étais pendant 3 heures sur une plage de Vendée. J'avais du temps devant moi et j'ai dessiné mon labyrinthe dans le sable. Et je l'ai parcouru. Et c'était un moment génial. J'en ai créé un sur un grand drap blanc, sur lequel j'ai fait marcher des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants, qui se prennent au jeu. Alors c'est drôle parce que c'est juste deux traits de...
Vous l'avez là ?
Feutre. Oui, je l'ai.
Vous me le montrez ?
J'allais vous le chercher. De la mémoire.
Les anciens disent que le labyrinthe ne se parcourt pas de n'importe quelle façon. Que la manière idéale de le parcourir est en dansant, ou en faisant des pas qui décrivent des figures sur le sol, des figures dans l'espace, des figures rituelles. Nous devrions, en quelque sorte, danser tout au long de la vie, appelant ainsi le processus d'évolution.
Donc là, on a un très grand drap blanc, blanc crème, la taille d'un lit de place, je dirais. Sur lequel vous avez tracé au feutre vert un labyrinthe. Alors, est-ce que ça correspond à une logique. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu comment ça se passe ?
En fait, ce qui est intéressant dans le labyrinthe, alors je parlais de celui de mon fils tout à l'heure, celui de mon fils était très simple, il était un petit peu en forme de spirale. Il y avait un petit chemin qui lui conduisait au centre, et puis la spirale inversée qui le conduisait à l'extérieur. Ce labyrinthe-là, il fait un peu plus penser à celui de Chartres, par exemple. Donc il y a une entrée et une sortie qui sont l'une à côté de l'autre, et quand on parcourt le labyrinthe, on chemine pour aller vers le centre. Mais au fur et à mesure qu'on va vers le centre, parfois, on s'en éloigne. Et puis on va s'en rapprocher. Et il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement surpris de marcher en se disant, bah, je vais au centre, voilà, ils ont un but. Puis en fait, ils se rendent compte que bah, pour aller au centre, parfois... faut prendre des chemins de traverse et que le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. Voilà, donc je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà, on se dit, bah là, je vais aller vers le centre. Ah bah non, je repars. Et on est sur la bordure extérieure et ça continue. On va encore s'éloigner de l'extérieur. On va se rapprocher petit à petit, s'éloigner encore un peu, arriver au centre. Et là, on prend le chemin de retour. Et puis on arrive, pareil, on va s'éloigner, se rapprocher du centre, s'éloigner, se rapprocher de la sortie, jusqu'à sortir du labyrinthe. Voilà.
Et on le retrouve dans d'autres civilisations, cette oui. idée du labyrinthe ?
Partout. Ah ouais. Dans toutes les civilisations, il y a des labyrinthes. C'est aussi un peu l'histoire du voyage, des voyages initiatiques, où dans tous les contes, où le héros s'en va faire une quête, et puis il va avoir des gens qui vont l'aider sur sa route, et puis il va arriver au centre de sa quête, et puis il va repartir transformé. Ça, c'est l'esprit de tous les rituels, en fait, de toutes les cérémonies. On a un avant, un pendant et un après. Quand on regarde le labyrinthe, il y a la bulle du milieu, on est tout seul, et voilà, on a... revécu quelque part notre passé, on a retraversé des événements du passé, on se pose au milieu et puis ensuite on ressort vers le monde.
En quoi c'est important aussi que ces rituels s'inscrivent dans une spatialisation, dans un lieu, voire qu'on l'incarne en fait ?
Ça permet peut-être tout simplement de prendre conscience de notre puissance créatrice. C'est à nous d'inventer ce qui va se produire, d'être créateur, je pense.
On dirait une sorte de rituel. La cérémonie de la répartition va bientôt commencer.
Après le virage avec Lara Molny, dernière partie, la formation.
En fait, l'origine des célébrants, ça vient de l'Australie. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de notre institut de formation. En Australie, qui est un très grand pays, il y avait donc des diacres qui pouvaient célébrer des cérémonies quand les pasteurs n'étaient pas disponibles. Et petit à petit, ils ont souhaité étendre à des personnes, enfin, notamment aux diacres, mais à des personnes qui étaient susceptibles de célébrer dans les coins reculés. Et c'est comme ça que la formation est née. Donc depuis le temps que j'en parle, ça fait peut-être 50 ans maintenant. Et puis ça a été exporté aux États-Unis, où là ça fait peut-être 20 ans que ça existe aux États-Unis. Et l'Institut a formé peut-être 1000 à 1200 personnes dans le monde hein, depuis 20 ans. Il y en a énormément aux États-Unis et au Canada. Et en France, on est peut-être de cette formation-là une vingtaine. Mais il y a d'autres instituts de formation qui sont montés.
En
France, il y en a deux autres, si mes renseignements sont bons. Et puis, il y a la formation donc, de Solange.
Solange Strugmeyer, créatrice de la Fondation et Institut du Célébrant.
Puisque Solange a décroché de l'Institut et a créé sa propre formation en présentiel. C'est une formation qui comportait plusieurs modules. Donc, un module des fondamentaux, où on étudie Campbell, Van Gennep, on apprend un petit peu les fondamentaux des rituels, des cérémonies. on touche un petit peu à tous les types de cérémonies, donc les funérailles, mariages, tout ce qui est cérémonie enfants, famille. Alors on travaille sur les fondamentaux effectivement des cérémonies, enfin des rituels dont on a parlé tout à l'heure. On regarde assez peu ce qui se passe dans d'autres cultures, mais un petit peu quand même les rites initiatiques des Amérindiens, etc. On étudie des cérémonies pendant la formation. On regarde comment elles sont construites. On travaille aussi la relation client. Donc tout ça, c'était fait en webinaire. Solange nous présentait le sujet. On avait un moment d'échange. Et ensuite, on avait du travail à faire chacune de son côté. Et puis, on rendait notre travail qui était visé par tout le monde, avec des retours de tout le monde. On avait à commenter le travail de chacune. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est à remettre du rituel dans la vie de tous les jours et pour tout le monde.
Et tout à l'heure, vous avez parlé presque d'une liste de rituels. On regarde quel rituel on va mettre. Est-ce que, pour donner une idée concrète à ceux qui nous écoutent, par exemple, dans la cérémonie d'une adoption, quels sont les 20 rituels qui existent? Je ne sais pas.
Alors, on peut en imaginer beaucoup. On peut les, en général, enfin pour les adoptions, on peut les créer. Sur la cérémonie dont vous parliez tout à l'heure, j'ai utilisé deux choses qui sont à l'opposé, puisque un rituel qui vient plutôt de Chine et un autre qui vient des Amérindiens, mais qu'on peut utiliser dans d'autres cérémonies. Donc pour la Chine, c'était le fil rouge qui relie chaque enfant qui naît à toutes les personnes qui vont croiser dans sa vie. Et pour la partie Amérique, c'est la couverture qui recouvre, là, qui en l'occurrence recouvrait les parents et le petit garçon adopté. Et quand on enlève la couverture, quand on soulève l'enfant hors de la couverture, voilà, ça y est, ça symbolise le fait qu'il fasse partie de cette famille.
Alors, vous en avez un autre, peut-être, sur un sujet différent, rite de passage?
Complètement différent. Là, c'est une cérémonie que j'ai écrite pour une personne qui avait besoin de célébrer son passage à la ménopause. Il y avait son mari et deux ou trois amis. Voilà. C'est une cérémonie qui a eu lieu en bord de rivière, sous un chêne. Et c'était l'occasion de revenir sur toute sa vie, effectivement, son parcours, donc avec l'aspect de la féminité qui avait été bafouée à plusieurs reprises. Et donc, il y avait une réparation dans le fait de célébrer cette cérémonie, de l'écrire et de la célébrer.
Est-ce qu'un rituel peut s'auto-administrer?
Si on a besoin et qu'on sait comment... on peut résoudre un problème qu'on rencontre ou quelque chose sur quoi on bute et qu'on sait comment passer ce cap-là avec un rituel, je pense on peut le faire. Pour moi, on peut le faire.
Et alors, de votre côté, donc on parlait juste tout à l'heure de vos projets. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes célébrante de vie et de quoi vous avez envie pour la suite?
Mon souhait, c'est de me rapprocher un petit peu plus du funéraire, en étant à la fois mieux formée pour ce qui est des cérémonies funéraires, même si d'après ma formatrice, c'est déjà pas mal, et en me formant pour l'accompagnement en fin de vie aussi, l'accompagnement, donc c'est les death doula au Canada et aux États-Unis, donc doula de la mort, de la même manière qu'il y a des doulas de la naissance, des personnes qui accompagnent la naissance. Voilà, donc mes projets, c'est ça, pour continuer. C'est aussi d'ouvrir, j'espère, l'année prochaine, un lieu dans lequel je pourrais célébrer des cérémonies. Un lieu entouré de chênes, à la campagne. Ça, c'est un très joli projet qui me tient à cœur.
Et pour vous trouver, donc, votre site internet?
Alors, mon titre d'activité, c'est Creative Cérémonie. Et c'est un site qui est diffusé par la plateforme Wix. Donc, on peut le trouver à partir de mon nom, Lara Molny. Wix ou alors Creative Ceremony Wix.
Et on y trouve notamment des visuels aussi, hein, des photos, des cérémonies que vous avez pu faire, les témoignages. Et c'est vrai que ça donne une idée concrète pour tous ceux qui auraient besoin un petit peu de se représenter aussi ce que ça peut donner. Comme vous êtes aussi musicienne et que la musique porte énormément, et puis c'est une touche très particulière de votre parcours aussi, on va vous écouter jouer un petit peu. Mmh, et puis, profiter de ces vibrations.
Alors je vais pas jouer. Je joue parfois dans les cérémonies de mariage, mais je joue ce que les mariés me demandent. Donc souvent c'est des pièces actuelles. J'ai joué du Norah Jones, j'ai joué du Ed Sheeran, etc., etc. Les cow-boys fringants là sur une des dernières cérémonies. C'est très varié. Hein. On fait de tout. Je peux aussi faire des choses plus classiques comme le canon de Pachelbel par exemple. Donc là je suis plutôt partie sur des œuvres que j'aime bien, moi, à titre personnel. Voilà.
Je vous suis ?
Oui.
Après le virage, c'est terminé. Merci à mon invité Lara Molny, que vous écoutez en ce moment au violoncelle, interprétant un morceau de Piazzolla intitulé « Chiquilin de Baffin ». Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de Jet FM 91.2.